18h et vous êtes bien sur France Culture. On retrouve les informations avec vous, Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. À l'approche de 2017, François Hollande reconnaît la responsabilité française envers les harkis. Le discours solennel du chef de l'État ce matin dans la cour des Invalides à Paris a valeur de symbole pour cette communauté de 500 000 personnes en France. Nous reviendrons sur le discours du chef de l'État au début de ce journal avec Aurélien Colli. François Hollande attendu aussi cette semaine sur l'avenir du site d'Alstom où 400 emplois sont menacés d'ici 2018. C'est une semaine clé qui s'ouvre demain pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. C'est toute la filière ferroviaire française qui est concernée par le sort de l'entreprise. Nous l'entendrons. Nous ferons aussi le portrait de l'ancien grand rabbin Joseph Sitruk. Il est mort ce matin à l'âge de 71 ans. Enfin, un référendum sous haute tension dans l'entité serbe de Bosnie où le choix d'un jour férié ravive les nationalismes. La correspondance de Laurent Rouy est à suivre. Au sommaire de dimanche et après, Raphaël Bourgois.
À 18h15, économie, est-ce que ça va vraiment mieux? Et si oui, comment faire pour que ça aille vraiment bien? On en parle avec l'économiste Eric Kayer et la sociologue Dominique Méda. Puis à 18h45, le Labour peut-il se rassembler autour de Jeremy Corbyn? On sera à Londres par téléphone avec le journaliste du Guardian, John Henley.
Merci Raphaël et à tout à l'heure. 54 ans après les accords d'Évian et l'abandon des harkis, François Hollande a reconnu la responsabilité des gouvernements français dans cet épisode douloureux de l'histoire nationale. Discours solennel du chef de l'État dans la cour des Invalides à l'occasion de la journée nationale d'hommage à ses anciens combattants d'origine algérienne. François Hollande honore ainsi sa promesse de campagne de 2012. Les harkis et leurs descendants en France représenteraient 500 000 personnes. C'est pourquoi la cérémonie a été particulièrement soignée, Aurélien Colli.
Cette reconnaissance, François Hollande l'avait promise quand il était candidat. Son ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, l'avait aussi formulé il y a 3 ans aux Invalides. Mais voilà, rien ne vaut la solennité de la parole présidentielle, surtout à quelques mois d'une élection où François Hollande sera très probablement candidat, surtout quand ses adversaires politiques, eux, assistent aux cérémonies pour s'attirer les faveurs de la communauté harkie. 500 000 Français, certes, mais derrière elle aussi, 3 millions de pieds noirs qui partagent à peu près le même sentiment d'abandon. Dans l'assistance et dans le viseur de François Hollande, Nicolas Sarkozy d'abord, qui avait lui aussi promis cette reconnaissance quand il était candidat en 2007, mais qui n'a pas tenu sa promesse une fois élu. Dans son viseur aussi, Marine Le Pen, qui avait fait le déplacement. Pas besoin d'en faire beaucoup plus pour elle, puisque c'est sur la nostalgie de l'Algérie française que son parti est né et qu'il a prospéré. Un Front National de plus en plus refuge des pieds noirs et de la communauté harkie. Réponse de François Hollande dans son discours. La grandeur est toujours du côté de ceux qui réparent plutôt que du côté de ceux qui sépare.
François Hollande, qui est aussi pressé par sa ministre de la Santé, Marisol Touraine, d'accélérer son calendrier et d'annoncer sa candidature pour la présidentielle. Selon le journal Le Parisien, l'ancien ministre Emmanuel Macron pourrait en effet annoncer la sienne entre le 15 novembre et le 15 décembre, avant donc que François Hollande ne dévoile ses intentions. Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, a estimé par ailleurs sur RTL que le chef de l'État perdrait la primaire de la gauche s'il s'y présentait à cause de son bilan en matière économique et sociale. Justement, pour éviter le naufrage d'Alstom à Belfort, comme celui de Florange en Lorraine, au début de son mandat, le chef de l'État doit apporter des réponses avant la fin du mois. Cette semaine sera clé pour les employés de l'entreprise menacée de fermeture d'ici 2018. Un comité central d'entreprise extraordinaire se tient demain au siège du fabricant de trains à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, avant une manifestation des salariés mardi. Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'État actionnaire de cette entreprise doit s'impliquer complètement dans ce dossier.
C'est du devoir de l'État de sauver cette entreprise. Pourquoi? Et de sauver le site de Belfort. D'abord parce que ce qui se passe à Belfort peut avoir un impact sur l'ensemble de la filière ferroviaire. Il y a des sites à Étré, il y a des sites à Valenciennes, il y a des sous-traitants. Et ce qui peut se passer, ça peut avoir un effet cascade. C'est sa responsabilité tout simplement parce que la filière ferroviaire, c'est l'avenir. C'est pas une filière qui est en train de disparaître. Le site de Belfort, après 2022, il aura de la production avec le TGV du futur. Entre-temps, il faut des commandes, notamment via la RATP, via la SNCF. Il y a des TGV italiens avec 12 locomotives qui sont en train d'être discutées. Ça fait 35 ans que la RATP n'a pas commandé à Alstom. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de commande publique ou d'entreprise publique en France. Oui, il y a une responsabilité.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, invité de questions politiques, l'émission de France Inter, France Info et Le Monde. François Bayrou a clôturé l'université de rentrée de son parti, le Modem, cet après-midi. Près d'un millier de personnes étaient rassemblées depuis vendredi à Guidel, dans le Morbihan. Le président du parti centriste s'est résolument ancré dans sa stratégie pour 2017. Soutien d'Alain Juppé, si celui-ci rentre remporte la primaire de la droite et du centre. Sinon, affirme François Bayrou, il se lancera dans une quatrième campagne présidentielle.
Je suis heureux qu'Alain Juppé ait montré qu'il était un homme de volonté, qu'il était un homme de parole, qu'il était solide et responsable et qu'il était, ce faisant, un homme d'honneur. Je trouve que ces quatre qualités-là méritent que nous manifestions et apportions et renforcions le soutien que nous avions décidé de lui apporter. Mais si c'était l'autre option qui l'emportait, que ceux qui soient choisis soient ceux qui préfèrent la division et l'affrontement national, nous ne lâcherons rien. Et le drapeau de la volonté nationale, le drapeau de l'idéal européen, je vous l'affirme et je m'y engage, il ne sera pas absent de cette élection. Nous aurons à assumer devant le pays les choix qui nous paraissent vitaux pour son avenir.
Le président du Modem, François Bayrou, avec Estelle Schmitt. Il avait été le guide spirituel de la communauté juive pendant plus de 20 ans. L'ancien grand rabbin de France, Joseph Citruc, est mort ce matin à Paris à 71 ans. Victime d'une attaque cérébrale en 2001, il était malade depuis plusieurs années. Son portrait avec Claire Lenestour.
Joseph Citruc était connu pour sa barbe fournie et le plaisir qu'il avait à dialoguer avec ceux qui croisaient son chemin. Ce séfarade né à Tunis en 1944 a commencé jeune. En 1970, il a tout juste 26 ans lorsqu'il est nommé rabbin, puis adjoint du grand rabbin de Strasbourg. Après un passage au grand rabbinat de Marseille, il est élu grand rabbin de France en 1987, une charge à laquelle il restera pendant plus de 20 ans. Au fil de ses trois mandats, Joseph Citruc a défendu l'intégration des Juifs tout en s'opposant à leur assimilation. Il encourage les croyants à trouver le chemin des synagogues, quitte à s'attirer quelques critiques, comme en 1994. Cette année-là, il incite les Juifs à bouder les isoloirs lors du deuxième tour des élections cantonales, organisées un jour de Pessa, la Pâque juive. Joseph Citruc prenait ainsi une stricte observance de la religion, condamnant tour à tour les mariages mixtes, les conversions et l'homosexualité, allant jusqu'à considérer la Gay Pride de Tel Aviv comme une tentative d'extermination morale du peuple d'Israël. Malgré ses positions tranchées, Joseph Citruc laisse le souvenir d'un homme qui aimait entamer le dialogue avec les représentants des autres cultes d'abord, mais également avec les membres de la classe politique. Selon la tradition juive, le prénom Haïm, signifiant vie, avait été ajouté à son nom dans l'espoir d'une guérison après l'attaque cérébrale dont il avait été victime en 2001. Malade depuis des années, l'ancien grand rabbin de France est décédé à l'hôpital.
Un office d'hommage à Joseph Citruc aura lieu à 19h30 à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris. Pour les réactions, son successeur, le grand rabbin Haïm Korsia, a fait part de sa tristesse et de sa douleur immense. Le chef de l'État, François Hollande, a salué un homme de dialogue, défenseur de la laïcité et une figure marquante du judaïsme français. Hommage presque dans les mêmes termes pour les candidats à la primaire à droite, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Réaction également de l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui garde en mémoire de longues discussions et des souvenirs de Tunisie partagés. Et puis on a appris cet après-midi le décès du journaliste et essayiste Jean Boissonnat des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il avait 87 ans. Ce spécialiste de l'économie avait été le cofondateur du magazine économique L'Expansion, puis de l'entreprise. Jean Boissonnat avait aussi été l'auteur d'un rapport sur l'évolution du travail salarié pour le commissariat au plan en 1995. Bonsoir Dominique Méda.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste du travail et vous avez participé à l'époque, vous aussi, à ce rapport qui s'appelait Le travail dans 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, 95-2015, on est proche des prédictions ?
Alors, en effet, Jean Boissonnat était président de cette commission mise en place par le commissariat général au plan. Il y avait deux grandes recommandations, à la fois prédictions et recommandations. D'une part, la réduction du temps de travail à 1500 heures par an en 2015, dont 10% consacrés à la formation permanente. On en est loin. Et l'autre recommandation, c'était la mise en place d'un contrat nouveau qui s'appelait le contrat d'activité, qui englobait le contrat de travail et qui permettait aux personnes d'être parfaitement sécurisées sans passer par la case chômage. Et donc, rétrospectivement, ça paraît radicalement révolutionnaire, mais aucune de ces deux recommandations n'ont été mises en œuvre.
Merci Dominique Méda, on vous retrouve à 18h15 dans Dimanche et après. Après une semaine de vaines discussions diplomatiques, le Conseil de sécurité est réuni en ce moment même à New York. Les pays occidentaux tentent de stopper l'offensive aérienne lancée vendredi par le régime appuyé par la Russie afin de faire tomber les quartiers insurgés à l'est d'Alep. Les bombes lâchées depuis 3 jours d'une violence inédite ont fait au moins 115 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans l'esprit d'un communiqué commun publié par l'Union européenne et les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a mis en garde les alliés de Bachar el-Assad cet après-midi. La Russie et l'Iran pourraient devenir les complices de crimes de guerre à Alep s'ils ne changent pas de stratégie, a déclaré Jean-Marc Ayrault. Le chef du groupe islamiste nigérian Boko Haram, Aboubakar Shekau, est apparu ce dimanche dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Il dément avoir été grièvement blessé, comme l'a affirmé en août dernier l'armée nigériane. Signe que l'organisation islamiste demeure en mesure d'infliger des pertes aux soldats dans la région. Un groupe de combattants de Boko Haram a tué 4 militaires tchadiens et en a blessé 6 autres la nuit dernière. L'écrivain jordanien et journaliste Naïd Attar tué en pleine rue ce matin alors qu'il se rendait à une audience au tribunal d'Amman. Il avait été arrêté cet été pour une caricature qui moquait le paradis dans l'imaginaire des combattants de l'État islamique. C'est pour cette affaire qu'il devait comparaître ce matin. Le tueur a été arrêté mais son identité n'a pas encore été révélée. À Amman, la correspondance d'Angélique Ferrat.
Naïd Attar a été abattu de 3 balles sur le chemin du tribunal. Sa famille avait prévenu les autorités jordaniennes qu'il avait été menacé. Le porte-parole du gouvernement a bien sûr condamné ce crime. Un crime contre l'état de droit, a-t-il dit. L'écrivain assassiné était plus connu pour son esprit provocateur que pour ses écrits. En août dernier, il publiait sur Facebook une caricature. On y voyait un combattant de l'organisation de l'État islamique, mort au combat et donc arrivé au paradis. Il était assis avec 2 femmes à ses côtés et il hélait Dieu pour lui demander du vin. Ce dessin moquait le discours djihadiste qui promet aux combattants morts un paradis décomplexé. Mais le public et les milieux religieux jordaniens ont crié au scandale. Naïd Attar a été emprisonné et inculpé d'insultes à la religion. Un crime dans la loi jordanienne qui peut valoir jusqu'à 1 an de prison.
Les précisions d'Angélique Ferrat. La République serbe de Bosnie vote depuis ce matin à l'occasion d'un référendum, le premier depuis 1992, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie. La consultation porte sur le choix du 9 janvier comme jour de la fête nationale, initiative jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Laurent Rouy, vous nous expliquez en quoi ce scrutin ravive les tensions dans l'entité fédérale.
Les électeurs de l'entité serbe de Bosnie, la Republika Srpska, participent à un référendum aujourd'hui. La question d'apparence banale, à savoir s'il faut maintenir la date du jour férié de la République serbe, déchaîne les passions. Dans ce pays déchiré par une guerre entre Serbes, Bosniaques et Croates dans les années 90, le président de l'entité serbe, le nationaliste et populiste Milorad Dodik, entretient la confusion entre référendum et sécession de l'entité serbe. Les Bosniaques craignent que ce vote ne soit le premier pas du démantèlement du pays. Les déclarations guerrières des politiciens des deux camps rappellent aux Bosniaques les heures les plus sombres de leur histoire récente. Pendant la campagne, les mots « guerre », génocide, sécession, indépendance ont été communément employés par les représentants des partis politiques. Le référendum intervient à 1 semaine seulement des élections municipales. Cette polémique autour d'un simple jour férié devrait renforcer les nationalistes de tous bords dans les urnes.
La correspondance de Laurent Rouy depuis Belgrade. Le temps de votre lundi restera instable avec des averses à l'est du pays, alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures au lever du jour, elles sont un petit peu plus fraîches. 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Brest et Bordeaux, 13 à Strasbourg, 15 à Ajaccio et 16 à Marseille.